Chapitre 8. La séparation. C'est parce qu'il est gentil, généreux et serviable que Brian est le nouveau chef de l'île. Seul Doniphan ne veut pas reconnaître les qualités du jeune Français et il a des difficultés à accepter l'autorité du nouveau chef. Ce deuxième hiver se passe selon le même programme que le premier. Les études pour les petits et quelques sorties pour chasser quand le temps est moins froid. Parfois, on patine sur le lac gelé. Les patins, fabriqués par Brian, sont en bois, avec une lame de fer, mais ils filent sur la glace. Jacques est le plus rapide à ce nouveau jeu. La vie dans la grotte est agréable, mais l'ambiance entre ses habitants n'est pas bonne. Doniphan a de plus en plus du mal à obéir aux ordres de Brian. Il vit à part à présent, en compagnie de Cross, Webb et Wilcox, qui sont sous sa domination. Les premiers jours d'octobre, le froid disparaît. Le lac et la rivière Zélande sont à nouveau praticables et, le 9 octobre, Doniphan annonce sa décision d'aller s'installer à l'est de l'île avec Cross, Webb et Wilcox. « Mais pourquoi ?» demande Baxter. « Parce que nous voulons vivre à notre gré et nous n'aimons pas recevoir des ordres de Brian. Mais qu'est-ce que tu me reproches ?»«
Rien.
D'être notre chef. Ce n'est pas sérieux. J'espère que vous n'allez pas regretter cette décision. » dit alors Gordon. C'est de cette manière que le 10 octobre, selon le plan de Doniphan, les quatre garçons partent en direction de l'est. Ils emportent peu de choses, car ils vont d'abord en reconnaissance. Doniphan pense longer la rive du lac jusqu'à sa pointe sud, puis remonter par la rive opposée jusqu'au fleuve est. Ensuite, il suffit de suivre le fleuve jusqu'à son embouchure pour arriver à la côte de la Déception. Ils vont parcourir 16 milles environ, mais ils s'arrêtent souvent et chassent pour manger. Arrivés au fleuve, la marche devient plus difficile. Ils doivent se faire un chemin dans la forêt épaisse. Parfois, ils coupent des buissons à la hache pour arriver à suivre la rive du fleuve. Enfin, le soir du troisième jour, ils entendent au loin le rugissement de la mer et campent à cet endroit. Le lendemain, ils arrivent à l'embouchure. Doniphan observe la côte avec sa lunette. Elle est aussi déserte que la côte opposée. La journée se passe à visiter le littoral et ses grottes. Très vite, Doniphan en trouve une aussi confortable que la grotte française. Le soir, il mange des poissons pêchés dans l'embouchure du fleuve. Ils prennent la décision de continuer la reconnaissance du littoral jusqu'à la pointe nord de l'île. Peut-être vont-ils enfin voir des terres au large. Ensuite, ils retourneront à la grotte française pour rapporter le matériel nécessaire à leur installation. Le lendemain, le 14 octobre, ils prennent la direction du nord et parcourent 9 milles. Le jour suivant, c'est avec un vent de plus en plus fort qu'ils font les 9 milles restants. Une tempête s'annonce, et c'est dans le bruit du tonnerre et la lumière des éclairs qu'ils arrivent, enfin, à la pointe nord. Soudain, Wilcox, qui marche devant, s'arrête et montre une masse noire sur la plage. C'est une barque couchée sur le côté droit et, tout près, il y a deux corps étendus sur le sable. Doniphan, Webb et Cross s'approchent, puis tous les quatre, terrifiés, sans penser que ces corps peuvent être encore en vie, partent se cacher sous les arbres proches. Pendant toute la nuit, la tempête se déchaîne. Au matin, le vent continue à souffler. Les quatre garçons vont se mettre en route, mais avant, ils veulent enterrer les corps échoués sur la plage. Ils avancent dans le vent, en direction de la barque. Les deux corps ne sont plus là. Doniphan et Wilcox avancent un peu plus sur la plage. Rien. Pas de traces sur le sable. Doniphan regarde au large avec sa lunette. La mer est vide. Les corps des naufragés sont sûrement loin au large. La barque est une chaloupe de navire marchand. À l'arrière, on lit Severn, San Francisco, le nom du navire et son port d'origine. San Francisco ? Un port américain ? Un bateau américain ? Sur cette partie de l'île, la mer est toujours aussi vide. Pas une seule terre à l'horizon.